Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans le numéro combien, Jeff?
63.
63, messieurs,
63.
dames. Bienvenue dans ce numéro
Bonsoir à tous.
63. Voilà, l'Auvergne. The E-Teachers, on est bien content de vous revoir tous. Et ce soir, en plus, on a le retour de notre Seb des États-Unis. Salut, Seb.
Salut, je suis content de revenir. Ouais, ça fait plaisir de refaire un E-Teachers.
Ouais, ça fait plaisir de t'avoir. Ouais. C'était dur, on a décalé au jeudi. Et jeudi, a priori, c'est bon.
À la dernière minute, en plus. Ouais.
Ouais, c'est comme vous l'aurez constaté, c'est un peu compliqué de maintenir toujours des rythmes réguliers, mais c'est aussi ce côté DIY, do it yourself, qui fait la force de notre émission, n'est-ce pas?
On a fait tout pour l'avoir, Seb, c'est pour ça.
Voilà, donc on est super content de l'avoir et puis on est super content de refaire une émission dans des actualités, ma foi, fort chargées, où vous êtes tous sollicités de part et d'autre pour écouter, voir tout un tas de trucs. Donc on espère quand même que ce petit podcast aura un peu d'écoute, hein. Et puis, vu que hier, nos futurs présidents ont consacré environ 2 minutes 30 à l'éducation, et ben voilà, nous, on va en consacrer un petit peu plus.
Bah, c'est la grande absente.
Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Allez, enchaîne, Jeff, démerde-toi maintenant, voilà.
Allez, après ça, un petit sommaire rapide, bah, comme d'hab, hein, on va commencer par nos outils avec pas mal de choses, bah, de capture d'écran, de QR code, de nuages de mots, je crois. Un petit truc et astuce de ma part sur la diffusion des smartphones sur nos écrans. Seb va nous parler du site Banc d'école, c'est un travail sur la comédie musicale. Et un petit article que va relier, je crois, Guillaume, hein, je crois que c'est lui qui a dit, de Vauchel, il me semble. Et on finira par une petite partie actu que Guillaume nous parlera de l'UNICEF Coding Challenge. Et on finira bien sûr par notre partie pour parler d'autres choses.
Très
Alors,
bien.
voilà, je sais pas si je suis bon sur le sommaire, mais c'est quelque chose qu'on me demande souvent de faire un petit sommaire, donc j'essaie de le
Ouais,
faire.
si, je pense que t'es bon, et puis bah, tu peux directement commencer avec les captures d'écran.
Allez, capture d'écran. Alors là, je suis tombé sur capture d'écran. Il en existe des centaines de petits logiciels, de petites apps pour capturer nos écrans rapidement. Je m'étais arrêté, j'en avais parlé, je crois, dans un e-teacher il y a assez longtemps, d'un outil qui s'appelait Gadwin, qui faisait bien le job. Et je suis tombé pas plus tard qu'avant-hier, je crois, sur un outil franchement pour moi parfait. Je vais essayer de le faire vraiment. Donc, je vais vous le faire en direct pour voir à quoi ça ressemble. Vous allez être normalement sur les notes de l'émission. Voilà. Et j'appuie sur imprime écran de mon PC. Je vais avoir une sélection de zones à faire. Donc, sélectionner la zone que je veux copier directement. Donc, ça, on va me dire rien de, hein, du classique. Mais ce qui est super intéressant, ah, vous voyez rien. C'est ça?
Si, on voit
Vous
ce
voyez?
qui.
Ici?
Ouais, si, moi j'aime bien parce
Tu vois, c'est
que
bon?
justement tu vois la taille en pixels de ta zone d'écran.
Ouais, taille en pixels. Donc une fois qu'on l'a faite, on va pouvoir même la déplacer si on a fait une petite erreur. Hein. Il n'y a pas de souci, on peut la déplacer, l'agrandir, etc. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a toute une série d'outils sur le côté, dont un outil que moi qui me sert assez souvent quand je fais des captures d'écran, bah, c'est les outils flèches. Tout simplement de tracer une flèche directement à l'endroit où je veux, et directement aussi mettre un petit texte ici. Hein, le texte que l'on veut au bout de la flèche. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir déjà configurer entièrement notre capture d'écran. Ce que d'habitude, moi, je faisais. Donc, j'avais un petit logiciel, je sélectionnais, j'enregistrais mon image, j'ouvrais un logiciel d'image et je rajoutais ces petites flèches, ce petit texte, etc. Après, on a quelques options. On a des formes assez simples. On n'a que le rectangle en forme, par exemple. Mais bon, je pense que ça suffit largement. On a un petit marqueur avec, bien sûr, les couleurs que l'on veut. Si l'on souhaite tout de suite. Voilà pour les outils. Ce qui va être intéressant, il y en a plusieurs. Ça va être bien sûr de copier. Donc, quand on veut copier-coller cette capture, elle va nous copier et on va pouvoir la coller dans n'importe quel logiciel. Et aussi enregistrer. Moi, le sauvegarde de mes captures d'écran, je pourrais m'en passer. Hein. Copier-coller me suffit largement. Hein. Si je fais un copier ici, eh ben, je vais aller sur ma page ici et faire un petit coller. Et je vais avoir ma capture qui se met directement dessus. Un gain de temps énorme, une rapidité, je trouve vraiment, vraiment bien fait. Si je continue un peu plus loin, ce qui peut être aussi intéressant, vous m'entendez toujours, hein, c'est
Ouais,
bon?
c'est
Oui,
bon,
oui.
on
Ouais, bon.
écoute.
Ce qui va être intéressant aussi, c'est partage. Partage sur les réseaux sociaux si on veut directement. Hein, partage sur Twitter directement une copie d'écran, pourquoi pas. Une recherche, alors ça, j'ai pas trop vu l'intérêt pour l'instant, mais bon, peut-être. Ils peuvent rechercher directement sur Google Images une image similaire. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que si on ouvre un compte sur donc PRNTSR, je sais pas, .com, et ben on va retrouver toute notre historique de capture d'écran. Ça peut être intéressant. Si on veut récupérer une ancienne capture d'écran, on a toute une historique qui garde en mémoire, même si on n'a pas enregistré au préalable la capture d'écran. Donc c'est un outil super simple que je trouve plutôt qui fait le job. Moi pour faire ça, bah, il me fallait deux, trois outils pour le faire la même chose. Là, en un seul outil, j'ai toute la panoplie de la capture d'écran.
Et comment tu la déclenches déjà ta capture d'écran?
Imprime écran, hein, sur
Ah, tu fais un prime écran, d'accord, ok.
Voilà, tout
Ouais.
simplement. Tout
Parce que
simplement.
moi, en complément, pareil que toi, hein, tu vois, j'avais à peu près les mêmes besoins. Et ben, je me suis penché moi vers un truc, mais qui ressemble en fait à fond, qui s'appelle Jing. Alors, ben, je vais faire comme vous, je vais partager. Alors, faites bien, il faut être bien attentif, parce que justement, la question que je te posais sur le partage d'écran, c'est sur comment tu la lances. Parce que nous, en fait, sur Jing, c'est ce petit truc là-haut, là, je ne sais pas si vous voyez ce petit cercle, là, ça n'a plus marché, que vous pouvez déplacer un peu où vous voulez normalement. Et alors,
Donc tu le
en
lances
gros,
à la
il prévoit les mêmes. Ouais, tu le lances à ton petit nuage là-haut
souris.
qui est tout le temps en train de flotter dans ton écran et qui normalement marche bien. C'est la première fois que j'ai un problème, mais bon, on va dire que c'est l'effet Bonaldi e-teachers, hein, quelque chose comme ça. En fait, Jing, c'est un petit. Oui,
Je
il est
sais même
déjà en
pas
train de
si
marcher, super.
J'ai donné le nom de mon appli. Moi, j'ai donné, ouais.
On se doute que ça s'appelle Print Screen, non? Non.
Non, justement, non, je l'ai même pas dit. C'est Lightshot, ça s'appelle. Lightshot. Je suis désolé.
Ok.
Print Screen, je crois, c'est le. Ça va être l'éditeur du logiciel, je pense.
D'accord. Voilà, le logiciel Jing, lui, il est édité par le même éditeur que Camtasia et tout ça, mais
Ah oui.
il est gratuit. Et bon, je peux pas vous en faire la démonstration. On a vraiment la même interface que Jeff, si ce n'est que, eh ben, les menus sont sur la gauche. On peut aussi faire le partage en faisant sur Jing. Et donc, après,
D'accord.
envoyer un lien aux gens pour qu'ils puissent directement accéder à la capture d'écran. Et le petit truc qu'il y a en plus, c'est que ça fait aussi des vidéos. Donc, on peut faire
Oui,
des
d'accord, des
captures
captures.
d'écran en film.
Et
Et
qu'on peut annoter
ça, c'est
dessus
pas mal.
aussi?
On peut annoter sur les images, mais pas sur les vidéos.
Pas sur la vidéo, d'accord.
Ouais,
Ah oui, c'est la
voilà.
vidéo en plus.
Et Lightshot est gratuit en plus. Je suis en train de voir qu'il
Oui,
existe aussi
Lightshot est
pour
complètement
Mac.
gratuit. Ouais.
Je suis en train de le télécharger.
Et Jane, t'en as pas parlé, c'est gratuit aussi?
C'est gratuit, ouais. Alors que bah justement tout le reste
Camtasia est payant, je crois, hein.
de
Ouais, non?
Camtasia et tout ça, c'est super payant. Ouais.
Ouais.
Donc, voilà. Mais bon, ça fait à peu près donc la même chose que toi. C'est juste l'accès qui est un peu différent, parce que moi j'ai pas besoin d'appuyer sur print screen,
Sur
mais
le
je vais
clavier,
chercher
ouais.
dans les petits nuages et j'ai tout de suite mon petit curseur qui se met. Et pareil, on peut retailler après, parce que ça c'était important pour moi en général. Quand on fait une capture d'écran, après on peut plus retailler la zone. Donc si on a glissé
Ouais,
un
ou alors
peu
ouais.
avec le pavé tactile et tout, on est un
Ou
peu dedans, quoi.
repasser par un logiciel d'image ou comme ça. Ouais.
Ouais. Donc voilà. Pour
Ok,
compléter.
super. Jing, Jing.
Ouais.
Voilà.
JN.
Guillaume?
Oui, c'est moi.
À toi.
Ah, mais c'est à moi, j'avais pas compris. D'accord. Ok, très bien. Alors, moi,
Pour
je
faire
vais
de
vous
la fille.
parler effectivement de nuages de mots-clés. Voilà, c'est un peu mon truc ces temps-ci. J'ai parlé souvent de Hans Garden dans cette émission, voilà, qui permet à nos élèves de proposer des nuages de mots-clés, des mots, pardon, qui vont créer de manière collaborative un nuage de mots-clés de classe, par exemple. Là, je me suis intéressé en fait à une application qui s'appelle Word Salad, donc qui veut dire en fait une salade de mots, hein, vous l'aurez compris. Pas très très compliqué, et il s'agit bien d'une application en fait qui n'existe que sur tablette ou smartphone. C'est pas une application de bureau, donc plutôt destinée à des usages tablette, bien évidemment en classe ou en BIOD avec le matériel des élèves. Donc je vais tenter une première, puisque je vais tenter de partager justement mon écran. Alors, on s'était pas concerté, Jeff, de téléphone, mais voilà, je vais le faire. Vous allez me dire si ça marche. Donc voilà, donc en fait l'application vous la voyez, hein, c'est ce W en bleu à côté de Goody, la Word Salad. Et donc le principe il est
De prof.
Putain. Je suis désolé, je voulais pas faire ça. Donc en fait, l'idée, ça va être de créer des nuages de mots-clés un peu sympa, un peu voilà, c'est bourré de pubs parce que c'est gratos, super, nickel, effet bon appétit.
Ouais,
il y a la version payante et la version inverse. En fait, c'est la même fonction, hein, sauf qu'il y a de la pub. Voilà.
Ça enlève la pub, d'accord.
Donc vous voyez, on va pouvoir obtenir des nuages de mots-clés assez stylisés, assez jolis, qu'on va pouvoir éditer comme on le veut, avec tout plein de fonds de couleurs, différentes possibilités. De fond, on peut même en acheter d'autres. On va pouvoir changer la police du nuage de mots-clés, on va pouvoir changer tout plein de trucs, voilà. Bon, c'est moi, c'est pas forcément ça qui m'intéresse a priori, mais je vous le montre quand même. On va pouvoir changer également les couleurs de fond, voilà, un truc bien moche comme ça là, nickel. Voilà. Bon, en fait, l'intérêt réel de cet outil, c'est que vous allez, en fait, les élèves vont créer un nuage de mots-clés à partir d'un texte. C'est-à-dire que automatiquement, quand vous allez rentrer du texte, lui, il va regarder les occurrences, le nombre d'occurrences des mots, et il va créer le nuage de mots-clés. Tout le monde connaît le principe du nuage de mots-clés, hein, c'est-à-dire que quand plus l'occurrence apparaît dans un texte ou est donnée, plus dans le nuage de mots-clés, le mot apparaît en gros. Là, dans l'exemple de marketing, vous l'avez compris, marketing est un mot qui est apparu bien plus souvent dans le mot, dans le texte qui a été donné que les autres. Donc en fait, c'est assez facile, hein, et en haut à gauche, je vais cliquer sur le petit plus. Voilà, et je vais pouvoir rentrer ma salade de mots soit directement en faisant un copier-coller du texte ou en écrivant un texte à la main. Bon, sur un smartphone, ça paraît un peu long. On va pouvoir éventuellement aller le récupérer directement de Wikipédia. Vous voyez, il y a un lien là-haut, donc ça peut être intéressant aussi en allant chercher directement sur un article Wikipédia. Dans le contexte de l'éducation, on l'utilise quand même assez souvent, voire même éventuellement de tweets. Alors, j'avoue ne pas être super... je me demande un peu à quoi ça va servir, mais bon, en tout cas, la fonction existe. Donc, je vais vous faire la petite démo. On va aller chercher, je sais pas moi, on va aller chercher, voilà, je me suis mis sur les actualités. On va aller copier-coller, on va chercher autre chose. Allez, je mets vraiment n'importe quoi. Le premier article qui me vient, allez, voyez, je vais sélectionner une partie de mon texte, OK, que je vais copier. Je vais bien sûr retourner dans mon application, saisir. Ce document, je vais quand même indiquer la langue, on est en français là pour le coup, hop, et je commence la transformation. Et voilà, on arrive à quelque chose de ce style. Bon, manque de bol, j'ai quand même pris un texte qui, a priori, il n'y avait pas beaucoup d'occurrences qui revenaient, ou en tout cas le texte était un petit peu court. Mais vous saisissez le principe. Moi, ça m'intéresse beaucoup, en fait, on travaille, ça va plutôt s'adresser, on va dire, à des littéraires, et en tout cas à des gens qui enseignent des langues étrangères, justement sur ce qu'on appelle les stratégies de compréhension. Puisque une des premières stratégies de compréhension qu'on donne à des élèves quand ils apprennent à parler une langue et à lire une autre langue, ça va être de se focaliser sur les mots qu'ils connaissent, bien sûr, sur les mots transparents, et souvent on leur dit les mots-clés. Mais c'est quoi un mot-clé quand on peut pas, en amont, comprendre, dire, on peut pas définir un mot-clé si on comprend pas le texte de quoi il parle. Et ben, en travaillant avec ce système, en disant aux élèves, ben voilà, la première chose que vous allez faire, c'est rentrer, copier-coller le texte et puis voir ce qui sort d'un nuage de mots-clés, on va bien voir les mots qui reviennent en plus gros par rapport aux autres. Donc, par définition, ça va être eux les mots-clés. J'ai oublié de dire un truc, dans les réglages, on peut bien évidemment et heureusement supprimer tout ce qui est article, tout ce qui est mots techniques, on va appeler ça comme ça, qui prendrait, en fait, qui serait les premiers, parce que vous pensez bien que les articles, les le, les la, les un, les une, ce genre de choses, prendrait le plus de place. Mmh. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en termes de concept, en termes de mots-clés, de thématiques principales, ça permet très visuellement de faire émerger les axes du texte. Donc moi, c'est vraiment un outil que j'ai découvert, que je connaissais depuis longtemps, mais j'en ai pas encore bien trouvé l'utilisation, que je vais utiliser maintenant assez souvent. Ça prend 3 secondes. Plus que le rendu finalement, hein, le rendu esthétique qui peut avoir d'autres intérêts derrière pour d'autres travaux, mais voilà, cette idée de je prends le texte, je le passe un peu au tamis et je vois ce qui en ressort, j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà, ça s'appelle Word Salad.
Ouais, cool, j'avais jamais pensé à une utilisation en langue étrangère, justement. C'est vrai que ça peut être pas mal, ça, surtout avec des débutants et tout ça, tu sais, montrer les mots qui reviennent, même toi en tant que prof, quand tu choisis un texte, voir si le vocabulaire est trop difficile ou des choses comme ça, ou prévoir ta préparation vocabulaire à la compréhension, ça peut vraiment être pas mal, ça.
Exactement, c'est exactement ça. Moi, je le pense vraiment à l'utiliser plutôt pour les petits niveaux. Après, c'est un outil qu'on peut donner aux élèves pour qu'ils l'utilisent par eux-mêmes, hein, s'ils en ont besoin, quoi, mais.
Mais l'app smartphone fait la même chose que le site internet, c'est ça? Ou parce que je
Il n'y a
connaissais le
pas,
site internet,
justement,
moi.
c'est un peu le souci, il n'y a pas de site internet en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de site internet qui fonctionne
Ouais,
pour ça.
bien
Et
sûr.
le site internet, c'est juste pour on t'explique ce que c'est et on te renvoie les liens de téléchargement. Mais enfin, moi que j'ai mal vu,
D'accord.
mais.
Non, parce qu'il y a, il y a un site qui s'appelle WhatsApp,
Mais ça ne
normalement.
doit pas être le même.
Ça va pas être le même,
Peut-être
d'accord,
qu'il y a une
ok.
version
Bon,
desktop, hein,
ouais.
remarque. Hein,
Non,
j'ai peut-être.
mais c'est pas, t'as raison, c'est pas le même. J'ai rien dit.
Voilà.
C'est un site de salade.
Non, c'est un truc de
Non.
mots, mais c'est pas du tout le même éditeur. Hein. C'est ce que je viens de voir.
Je t'ai fait une
Voilà.
salade avec tout ça.
Voilà.
Voilà. Je crois
Donc,
qu'on a notre titre d'émission.
ça y est, on l'a. Ok, super. C'est moi, je crois, hein,
Donc, tu
toujours.
voulais nous parler
Vas-y.
de QR code?
De QR code, ouais. De QR code, on va parler. Pour créer des QR codes, il existe un paquet aussi un paquet d'applis qui fait ça très bien. J'en avais parlé pas mal, j'avais parlé d'Unitag à un moment. Mais là, il y a un truc qui a été bien fait par l'Académie de Versailles. L'Académie de Versailles franchement, qui développe pas mal de petits outils assez sympas que j'ai découvert aussi dernièrement, et dont celui-là qui s'appelle Edu QR Code de l'Académie de Versailles. Bah, il fait comme les autres, on va dire, hein, mais il n'y a pas de pub, c'est épuré, c'est simple, ça fait le job. Hein. Donc, si on vient ici, par exemple, on va pouvoir faire un QR code, bah, le plus simple, c'est par un lien. Hein. Donc, on va choisir. On va rentrer l'URL du lien ici où l'on veut faire, bah, par exemple, le QR code. Donc, on va copier l'adresse d'un lien, on va aller le coller dans l'URL. Hop, on va choisir la couleur de fond, la couleur du QR code. Alors, bien sûr, ils essaient de mettre leur logo un peu partout, mais on peut l'enlever. On peut choisir aussi notre propre logo dans le QR code. On fait envoyer et on a notre QR code. Franchement, bon, qui fait le job, je trouve, plutôt épuré, moins de chichi tout autour, comme un Unitag, par exemple, je parlais tout à l'heure,
Ouais.
Guillaume, comme tu dis, c'est pas mal. Et on peut aller aussi faire des QR codes de texte. Pourquoi pas, hein, j'ai vu faire, moi, des consignes par QR code, hein, pourquoi pas. De SMS, d'email, de contact, de géolocalisation, d'événements, de connexion Wi-Fi, qui peut être intéressant si on rentre toute notre.
Oh,
Notre
tu peux te
nom,
faire une
notre réseau
super chasse au
Wi-Fi.
trésor avec la géolocalisation. Ouais.
Ouais. Il y en a qui l'ont fait. Je l'ai vu faire aussi. Et donc voilà. Après, on a le QR code de la volée où on rentre directement et ça nous fait directement le truc. Alors, ils ont essayé aussi de mettre une image de fond. Je trouve que le résultat est pas terrible. Mais
C'est moche.
bon,
Ben, c'est pas jugé,
c'était
ouais.
bien à essayer. Donc
La
voilà. Donc voilà, je trouve.
géolocalisation, c'est quoi le principe? C'est que tu scannes et ça te donne un point sur une carte?
Non, tu vas rentrer latitude, longitude et ça va te donner un point,
D'accord.
ouais. À quoi ça correspond,
Ah, tu peux pas rentrer par exemple des points sur une carte pour faire passer, tu vois, je sais pas, t'imagines une chasse aux œufs quoi, avec sur chaque œuf
Bah,
le QR code du prochain.
si t'as une carte de. Tu mets sur une carte, t'as latitude, longitude du point où l'élève doit aller, par exemple. Tu
Ouais, mais
pourrais?
enfin, si tu vois, moi, latitude, longitude, si je les connais pas, mais que je connais par exemple les adresses, tu vois, genre.
Non, ça marche pas par adresse. Hein.
Ah
Ouais,
merde.
non, ça marche pas par
C'est
adresse.
con. Ouais, enfin bon.
Donc voilà. Bon, ça se retrouve après. Hein. Mais
Ouais,
par
c'est
rapport à ça.
rigolo ça. C'est
Voilà,
rigolo.
je trouve que l'Académie de Versailles fait pas mal de choses. Hein. Vous pouvez aller voir sur leur
Ouais,
site. Hein.
ouais.
Donc, ils développent pas mal de choses. Hein. L'Académie de Versailles, et surtout, je crois que c'est la DAN, mais l'Académie de Versailles qui fait beaucoup de choses. Il doit avoir une équipe de développeurs d'ailleurs, je ne sais pas, mais ils
Des
font des pas
stagiaires.
mal. Petit sympa.
Je pense qu'ils ont des développeurs parce qu'ils font beaucoup, beaucoup de choses. Tout à fait.
Ouais. Et celui-là, je trouve voilà, plutôt pas mal. Et je le proposerai maintenant de plus en plus par rapport
Ah!
à des sites marchands, quoi.
Bon, on va avoir des
Ouais.
slides de formation à mettre à jour, alors, Jeff.
C'est ça. Non, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve
Ouais,
qu'il est
il est
vraiment
très, très
voilà.
bien. Très
Ouais.
bien, très bien, très bien.
Très, très bien. Voilà.
Bon, on continue.
Ouais, c'est cool ça.
Ni sur nos outils. Truc et astuce, c'est encore moi qui parle. Ça va être très
Vas-y.
rapide. J'ai découvert ça sur le site de notre ami Tisman. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir son blog hein, qui est excellent. Une appli très simple qui s'appelle Screen Mirror, qui marche que sur Android. Par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller sur. Je vais essayer de justement de partager mon écran de smartphone. Donc, on lance l'application Screen Mirror sur notre smartphone. On le lance et il va nous donner une adresse IP à rentrer dans un navigateur. Donc, hein, une adresse IP, c'est une suite de chiffres. Hein. D'accord? Tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? Par magie, en fonction de votre réseau, de votre débit, etc. Quand, enfin, comme par magie. Il va falloir que ça marche, ça va faire comme Seb, tu vas voir. j'ai oublié rien. Ça ne marche pas. Oui, j'ai oublié. J'ai mis un 1 de trop. J'ai fait une petite erreur. Voilà. Le voilà. Donc, vous avez mon écran ici. Donc, vous voyez, hein, là, je suis sur l'appli Screen Mirror sur le smartphone. J'ai simplement lancé. Il m'a dit d'ouvrir l'adresse ici, mon navigateur. Et puis après, vous allez voir, hein, je suis sur mon smartphone. Le voilà. Vous avez mon petit smartphone qui est ici. Hein. Vous avez vu, la latence est plutôt, plutôt correcte hein, dans ce cas-là. Je trouve plutôt super simple.
Hein. Ouais, c'est pas mal.
Une simplicité déconcertante. Hein. On va pouvoir mettre dans l'autre sens si on veut. Hein. Zoomer un petit peu. Alors, la qualité n'est pas géniale. Vous allez voir, comme si vous voulez vraiment être en plein écran, la qualité n'est pas extraordinaire. Mais je trouve que ça fait bien le job, en tout cas. Quand on veut faire des choses assez rapides, c'est assez sympa. Voilà.
Eh ben, du coup, je vais en profiter rapidement pour... Ah, pardon, vas-y, redonne le nom.
Ouais, j'allais donner le nom. Donc, Screen Mirror. Hein, excusez-moi pour mon accent, comme d'hab. Voilà. Sur Android.
Ben, j'en profite pour vous parler rapidement pour les possesseurs d'iPhone et de Mac comme moi qui ont cherché juste avant de faire l'émission à comment rapidement partager mon smartphone. Il y a une astuce qui est propre à... Voilà, sans acheter une Apple TV, il y a une astuce qui est très très simple en fait. Il vous suffit de brancher votre iPhone ou iPad avec votre câble Lightning dans votre port USB de l'ordinateur, hein. Et ensuite vous utilisez l'application QuickTime qui est vieille comme mes robes, hein. On connaît ça par cœur, possesseur de Apple. Et quand vous lancez QuickTime, vous lancez ensuite nouvel enregistrement de film. Et là, dans les réglages des sources d'entrée de l'enregistrement, vous avez en général la webcam de l'ordinateur ou quand on clique dans la petite flèche qui donne plusieurs options, le téléphone qui apparaît. Et à ce moment-là, il apparaît dans une fenêtre. Et l'idée, normalement, c'est ensuite d'enregistrer la diffusion de votre téléphone et de ce qui se passe dessus. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire comme moi et vous arrêter juste à la diffusion sans forcément appuyer sur le bouton enregistrement. Voilà, c'est simple comme bonjour. Ça marche très, très bien.
Ouais, moi, j'avais parlé aussi, je ne sais pas si on se souvient, sur Windows 10 aussi.
Voilà.
Simplement écrire connect dans la recherche et on a directement notre smartphone, mais c'est encore que de l'Android. Ouais.
C'est encore que de l'Android, ouais. Tout à fait. Ouais. Voilà, ouais. Voilà. Très bien. C'est moi qui continue, non?
Je crois. Ou Seb, non, c'est peut-être Seb. Non.
Il a pas... sur Bande École, vas-y, Seb.
Ouais. Oui. Alors, Bande École, donc je ne sais pas si vous connaissez celui qui s'occupe, Guillaume.
Je le connais grâce à ton dernier podcast, voilà.
Exactement. Guillaume... donc il a son blog Bande École sur lequel il publie pas mal de trucs d'activités qu'il fait dans sa classe et des trucs qu'il découvre. C'est grâce à lui notamment que je m'étais intéressé à OneNote. Je vous en avais parlé dans eTeachers il y a longtemps, et donc il continue lui à tester la version éducation et tout ça. Et c'est vraiment sympa ce qu'il fait. Et puis il anime aussi le podcast Lifestyle, qui est un podcast qui parle de Windows et Microsoft, qui est très sympa. C'est très sympa à écouter. Là, en l'occurrence, moi, je vais plutôt vous parler de Bande École. Donc, lui, il a un site en Ulysse. Vous savez ce que c'est, les Ulysse, un peu, tous les deux ?
Unité locale d'intégration scolaire, oui.
Donc, il travaille avec des enfants en difficulté, des déficients, etc. Et il a publié une activité très, très sympa sur les comédies musicales. Et je trouvais que c'était intéressant qu'il avait fait déjà la démarche, parce que effectivement les comédies musicales c'est pas trop français, c'est plutôt par chez moi qu'on a ça. Et lui donc il a plusieurs séquences, je crois qu'il y en a 7 en tout, Je partage pas là mon écran parce que je pense que je peux vous en parler comme ça sans trop de difficultés. Mais donc il a prévu plusieurs séquences sur les comédies musicales pour faire découvrir le genre déjà aux enfants. Et vous verrez quand vous lirez ces différents articles qu'il est assez surpris déjà du peu de connaissances que les gens ont de ce genre musical qui est pas très très populaire en France. Donc de faire découvrir des compositeurs, beaucoup de vocabulaire, et puis aussi de les situer dans le temps parce qu'il a prévu un document, une frise chronologique pour placer dans le temps toutes ces comédies musicales. Et alors ce qui est super, c'est qu'il a vraiment tout prévu, donc il a les fiches prêtes à imprimer. Il a les cartes à placer sur la frise chronologique. Il y a la frise chronologique, évidemment, qu'il a faite. C'est toujours en format PDF ou format Excel ou format Word, etc. Et il a aussi déjà choisi pour les profs toutes les vidéos, les extraits pour montrer un peu ce que sont les différentes comédies musicales qu'il a retenues. Donc pour les françaises, il y a Starmania, il y a Émilie Jolie, et puis pour les plus connus dans les comédies musicales américaines, il y a West Side Story, et puis Le Roi Lion qui cartonne. Je crois que depuis que je suis à New York, je le vois toujours à l'affiche à Broadway. Ouais. C'est l'une des plus chères aussi comédie musicale, parce que ça coûte aussi pas mal d'y aller. Mais il vous a prévu 7 séances pour travailler autour de la comédie musicale, et je trouve qu'il a fait un super boulot. Les documents sont beaux, tout est à disposition, les extraits sont bien choisis, il les a mis dans le bon ordre et tout, et les activités sont sympas à faire, les enfants donnent leurs opinions aussi, donc c'est vraiment bien bien foutu, et une bonne façon de découvrir un genre, de faire de la musique, de se situer dans le temps et tout. C'est vraiment, j'aime bien la façon qu'il a de toujours mélanger les disciplines avec son public, donc ça c'est vraiment pas mal du tout quoi.
Est-ce que comédie musicale aux États-Unis est vraiment a encore marqué énormément dans les jeunes générations? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel les enfants grandissent comme on peut l'imaginer, ou de moins en moins, que ça commence à tomber un peu en désuétude?
Non, alors clairement, c'est marqué, c'est encore marqué aujourd'hui, soit par des comédies musicales modernes. Alors là, je fais un peu de pub. Si vous allez à New York, allez voir School of Rock, qui est tiré du film. Parce que c'est une amie à moi qui chante, qui fait le rôle de la principale. Donc allez la voir, ça va lui faire plaisir. Mais surtout, c'est que toutes ces comédies musicales là, elles sont reprises dans les écoles de danse, là où les enfants font de la danse en dehors de l'école, et aussi tous les collèges, les lycées, ils organisent toujours des comédies musicales avec leurs profs, et il y a des compétitions, si tu veux. Donc là, par exemple, pour te donner un exemple assez simple, ma fille a joué dans Le Magicien d'Oz.
D'accord.
C'était une comédie musicale uniquement pour tous les CM2.
D'accord.
La classe.
Ouais, non, franchement, c'est cool. Bon, après, ils sont équipés, ils ont les profs de musique. Enfin, tu verrais l'auditorium. C'est vrai qu'il y a beaucoup de son. Elle est en école publique, je le précise.
En France aussi, les comédies musicales modernes ont vachement explosé aussi. Hein.
Tu veux vraiment qu'on rentre dans ce débat-là, Jeff?
Excuse-moi, même si la qualité, on peut toujours en parler, mais c'est quand même un effet de mode en ce moment, quand même.
Oui, mais je veux dire, par rapport à l'histoire des comédies musicales américaines, parce que c'est quand même un genre typiquement américain.
Oui.
Quand tu réfléchis quand même à la France qui existait, effectivement, t'as mentionné les deux, enfin Starmania, et puis je sais plus laquelle autre t'as mentionné, Seb. Émilie Jolie. Après, on a eu dans les années 90 les belles, Notre-Dame de Paris et tout, et là, on a quoi là avec tous les guignols qui sortent de l'autre tatoué là, qui chante. Il a fait quoi, la Robin des Bois? Il a fait quoi? Il a fait.
Il y en a un paquet.
Il y en a un paquet, mais tu vois, je veux dire, ça reste quand même les 22 commandements, ton envie d'aimer de Roméo et Juliette.
Tout est discutable, on rentrerait pas dans ce débat, mais.
Non.
Ce que je veux dire, c'est que des comédies musicales comme Mary Poppins, tout ça, ça reste toujours marqué, même dans l'univers des plus petits. Donc, ça reste toujours d'actualité, c'est un truc de genre. Faire un cours de claquettes, c'est facile.
Non, mais c'est bien. C'est bonne initiative, en tout cas, surtout avec des élèves en
lycée.
Tout à fait.
Il a vraiment tout facilité, donc il a fait un truc super, ouais, vraiment, chapeau. Mais allez voir son blog en général, parce que là c'est pas un article récent, mais il a encore fait plein de trucs sur OneNote et tout ça, donc il partage toujours tous ses trucs astuces, donc c'est vraiment un blog à suivre.
Bandécole.fr,
effectivement.
Tout à fait.
Bien. Je ne te savais pas aussi fervent amateur de comédie musicale, mon cher Jeff.
Va voir School of
Mais tout
Rock
à fait,
dedans,
je...
il y a des gosses de 10 ans, 11 ans qui te font
Mais
des solos de guitare et qui jouent de Smoke
c'est
on
énorme, ça. Je l'avais vu, ce truc, c'est énorme.
the
C'est vraiment énorme. Non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Très bien. Bon, bah, j'enchaîne alors. Avec, dans notre partie innovation et expérimentation, c'est pas vraiment une innovation et expérimentation, je ne sais pas trop où le mettre, mais c'est plutôt un article donc, du site de Bruno de Vauchelles qui est assez lu, j'imagine, hein, que tout le monde connaît ici. Et voilà, c'était un article un peu provocateur sur les 10 raisons d'aller ou de ne pas aller dans tous ces salons dont on parle souvent, Educatis,
Ah.
Écritech, Ormé, du Spot, Ludovia. Il commence son article en les citant, sans parler même des Dan et des canopées, toutes ces réunions-là. Et c'est volontairement un petit peu provocateur, puisque
Article provocateur, j'aime ça moi.
ceux qui me connaissent un peu, qui ont écouté, savent que j'ai organisé et fait partie du bureau de Cyberlangue, de Feu Cyberlangue, j'aurais dû dire pour le moment, mais bon,
Ah ben
c'est la
on t'appelle la
phénix.
reine des salons d'ailleurs.
Voilà. Et du coup, j'ai trouvé son article un peu provocateur parce que, mais aussi vrai, puisqu'il y a quand même pas mal de choses dans lesquelles je me reconnais. Donc bon, les raisons d'y aller, je vais pas toutes vous les donner ici, mais vous pourrez lire l'article. Mais en gros, c'est quand même une volonté affichée de se mettre à jour sur les dernières avancées technologiques, technopédagogiques, rencontrer les acteurs importants, passer un moment avec des gens connus que l'on rencontre pas souvent, sortir un peu du quotidien aussi, voilà. Frémir un peu pour l'innovation pédagogique, etc. Assister à des ateliers avec des personnes qui, soi-disant, sont expertes. Bon, ce sont ces mots, hein. Voilà. Bon, ça, je suis assez d'accord sur le papier, hein. C'est un petit peu tout ça qu'on peut imaginer. Mais ce qui m'intéressait, c'est quand même les 10 raisons de ne pas y aller. Et il y a quand même des choses. En lisant cet article, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, finalement, est-ce qu'il y a vraiment, vraiment tant d'intérêt que ça? Alors, en faisant un peu l'analyse, voilà, l'avocat du diable. Bon, il commence en disant, on n'y apprend pas vraiment des choses nouvelles. J'avoue que il y a un paquet de salons sur lesquels je suis allé où j'ai pas forcément appris de choses nouvelles. Après, je me dis que nous, en tant que, allez, je vais dire le mot, j'aime pas trop, mais experts, on va dire, ou en tout cas fervent amateurs, ou même voilà, d'innovation pédagogique et tout ça, forcément, on a une propre veille, hein, sur Internet qui fait que peut-être, quand on arrive là-bas, on peut être un peu déçu parce qu'on. Mais bon, pour quelqu'un de lambda, peut-être que si lui, il apprendra vraiment quelque chose. Donc, ça pose en fait la question de à qui sont destinés ces fameux salons. Mais le problème, c'est que c'est dans les deuxièmes raisons d'y aller, une deuxième raison de ne pas y aller, pardon, c'est ce qu'il dit un peu plus bas. Il dit que finalement, on voit toujours les mêmes personnes. Et c'est pas complètement
Ça, c'est
faux,
un
en
peu
fait.
vrai.
C'est pas
Mmh,
complètement
c'est
faux.
vrai.
C'est toujours les mêmes personnes qui sont sur tous les salons et on a en vase clos. Et en fait, c'est ce que je reproche beaucoup à tous ces trucs-là, hein. Moi, je suis un fervent amateur de la massification des usages. J'en ai un peu marre qu'on reste entre geeks, entre géo-trouve-tout, entre mecs qui parlent de code et de trucs. Alors que quand on fait de la formation, on voit très bien qui on a en face de nous aussi. Et c'est plutôt vers ces gens-là, en fait, qu'il faudrait ouvrir tous ces salons. Donc, pourquoi ils n'y vont pas? Parce qu'ils sont pas intéressés. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Comment faudrait qu'ils y soient dedans? Enfin, etc., etc. Dans les autres informations qu'il donne, il dit que sur le web on trouve beaucoup mieux. Alors bon, ça, je suis pas tout à fait d'accord parce que ça remplace quand même pas des vraies rencontres. Mais c'est vrai que quand on a une veille, comme j'en ai parlé, on n'a pas forcément besoin d'aller à ces ateliers. Il dit qu'ils sont souvent ennuyeux. Je suis pas forcément d'accord non plus. Il y a quand même des bons moments, mais il y a quand même parfois un peu de moments où on s'ennuie. Et puis il y a le côté un peu, il y a ces vendeurs qui veulent à tout prix vous convaincre qu'ils ont raison. Bon, c'est
C'est
pas
sûr.
faux non plus, mais en même
Ouais,
temps, c'est aussi le
mais...
principe d'un salon. On comprend bien que les salons, ils vivent aussi parce qu'il y a des professionnels. Voilà, il y en a quand même un qui m'a un peu titillé dans les points. Il dit, écoutez la langue de bois de l'institution, des politiques et même des chercheurs et des praticiens. Et je reconnais quand même que, notamment sur les plénières, il y a quand même un paquet de fois où je me dis, ouais. Ok, là on a parlé 2 heures de ci, 2 heures de ça, on a parlé de dictée tweetos, on a parlé de je sais plus quoi, on a parlé de tout plein de trucs. Au final, est-ce que ça fait vraiment avancer le Schmilblick sur l'ensemble de nos élèves? Voilà, ça manque, c'est le principe un peu de ces salons, quoi. Je trouve que c'est un peu éloigné des réalités de terrain. Donc peut-être qu'il faudrait réfléchir à tout ça. Et donc en fait, la fin de son article, c'était plutôt de dire, ok, très bien, on pourrait continuer à faire l'inventaire, etc. Bon, à quoi ça sert pour les professionnels, tout ça, mais finalement, qui achète là-bas, etc., etc. Et la fin, en gros, c'est est-on capable d'organiser d'autres formes de partage? Est-ce possible? Et ça, J'ai trouvé cette réflexion intéressante, on l'a souvent ici, hein, mais comment faire pour que les pairs partagent et plus en tout cas, et est-ce que ce sont vraiment la solution tous ces salons? En tout cas, c'est vrai que moi je vois toujours les mêmes personnes qui vont dans les mêmes salons et j'ai pas l'impression que nos collègues qu'on voit au quotidien ils mettent un jour les pieds dans leur carrière, quoi. Voilà. Voilà, à suivre et à débattre. En tout cas,
D'accord,
voilà, il finit. Il termine en disant à quoi servent les foires quelque part, mais ça c'est des questions qui ça s'applique pas qu'à ce salon-là. Je veux dire, c'est les salons en général. Hein,
en général.
Mais c'est vrai que sur l'éducation et sur tous ces trucs-là, pour être allé à Udusport effectivement cette année, en toute honnêteté, je me suis demandé en fait un peu qui y allait et on parlait à qui, pour qui. Et alors bon, bien sûr, si c'est réservé aux financeurs, aux institutions qui vont acheter ensuite pour équiper les établissements derrière, j'entends bien. Mais bon. Ça m'avait pas l'air d'être forcément très très riche pour les gens de terrain. Voilà.
Ouais, bah moi j'aime bien les salons en général, mais je comprends ce qu'il dit sur les toujours les mêmes personnes, parce que justement moi je vois en montrant pas mal d'outils à mes collègues, je m'aperçois qu'ils me surprennent souvent en raquant un peu ce que je leur montre, tu vois, en faisant des utilisations détournées et tout, c'est assez malin. Donc ce qui est intéressant, c'est de se pencher avec eux sur un projet et puis d'essayer de le réaliser. Après, sur les plénières, tu parles un peu ennuyante et tout, ce qui manque peut-être, c'est parfois des discours plus nuancés, plus mesurés, avec justement pas vouloir faire partout ou des choses comme ça, mais en montrant comment ils peuvent s'améliorer, comment on peut améliorer l'expérience d'enseignement ou l'expérience d'apprentissage avec ces outils, et que je les utilise pas parce que c'est voilà, parce que c'est joli, mais soit parce que ça me fait gagner du temps, soit parce que ça fait gagner du temps aux gens, ou tout simplement ça rend l'expérience plus intéressante, et ça se voit assez facilement. Je veux dire, quand on envoie en langue étrangère envoyer des gens qui s'enregistrent en vidéo ou en audio, c'était des choses qu'on avait du mal à imaginer avant, autrement qu'en labo de langue, etc. Et c'était assez costaud, quoi. Et je crois que j'ai été déconnecté, n'est-ce pas?
Non, 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 non. Je crois que c'est. On a perdu Guillaume, je crois.
Voilà, je crois que je faisais chier comme dans les plénières.
Non, mais non, c'est un article un peu provocateur, mais qui interroge, en tout cas, voilà. Mais c'est vrai qu'il finit, j'aime bien comme il finit son article, là, il dit c'est mes énervements du moment, donc ne pas me prendre au sérieux. Donc voilà.
Voilà.
J'étais coupé, désolé, je suis revenu.
Donc sur le site brunodevauchel.com, on retrouve cet article. Je crois que c'est toi qui continues à parler, Guillaume, dans la partie actu.
Ah oui, pardon, super. Oui, c'est ça, exactement. Alors, je continue avec alors un projet, mais en fait, j'ai besoin de toi, Jay. Je pense que c'est plutôt toi là qui va pouvoir m'accompagner sur cette.
J'ai pas lu.
Non, mais tu vas comprendre pourquoi, puisque je suis pas un expert de Scratch et toi un peu plus. Et en tout cas, voilà, il y a quelque chose. Bon, moi, je suis un dingue de l'UNICEF. En tant qu'institution, je travaille beaucoup avec mes élèves à partir de beaucoup de leurs films, de leurs vidéos, ou à titre personnel aussi. Bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais enfin bref, voilà. Et en me baladant sur leur site, comme souvent, j'ai vu qu'ils organisent un concours de code, en fait, un coding challenge, où l'idée, c'est d'apprendre à programmer et de coder pour relever un défi solidaire de l'UNICEF. Donc, je vous lis rapidement le pitch. Hein. Des conflits ont éclaté en Syrie, le pays divine de Malak et de Mustapha. Ils se retrouvent désormais en danger. Découvrent leur histoire, puis apprend à coder avec le logiciel Scratch pour réaliser une animation en réponse à leur situation. Donc en fait, c'est un concours qui a pour but de sensibiliser, on va dire, les enfants occidentaux à ce qui peut se passer avec leurs camarades de leur âge dans des pays en guerre, tout en apprenant à coder, puisqu'on sait très bien que le code est maintenant au programme de l'enseignement. Donc en fait, il y a des petites vidéos, vous irez voir le site, qui sont proposées sur le site de l'UNICEF, des petites animations hein, qui racontent des histoires tristes, hein, on va dire ce qu'il est, d'enfants qui vivent la guerre. Et il y a tout un tutoriel qui est proposé pour que les élèves puissent en fait coder avec Scratch la suite de la petite histoire. Donc on a un tuto sur comment comprendre le problème et imaginer une solution, créer un storyboard de l'histoire animée, crée ton compte Scratch, crée le personnage de ton histoire, crée le décor de ton histoire, anime ton personnage, fais intervenir les personnages, tourne les pages de ton histoire, débug ton programme, ajoute des effets spéciaux à ton histoire animée et partage ton histoire animée avec le monde entier. Donc, moi, je suis pas un expert de Scratch, si tu veux nous en dire un peu plus si c'est vraiment possible, si c'est difficile, facile, j'ai eu du mal à jauger un peu le niveau de difficulté d'une telle opération, mais j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant d'associer pour une fois quelque chose qui relève un peu plus du scientifique, du domaine scientifique, à déjà de l'imagination, hein, puisqu'il y a quand même une part d'imaginaire et de création d'histoire, donc quelque chose qui serait plutôt littéraire, et en plus à quelque chose de solidaire, de citoyen et de voilà d'ouverture sur le monde. Donc j'ai trouvé que c'était un EPI à lui tout seul en fait ce concours de code là et bah voilà, bravo l'UNICEF encore pour cette initiative. Est-ce que tu peux le relier un peu, toi qui connais bien Scratch, nous en dire un peu plus, Jeff, peut-être?
C'est génial. C'est génial parce que c'est, on a des dates de concours, parce que moi j'aurais envie de je suis en plein dedans avec mes cinquièmes.
Ils sont trop grands, je crois.
Malheureusement, c'est de 8-12 ans. Ah, bah 12 ans, si, cinquième.
Bah, c'est bon, allez. Ça passe.
Enfin, ça sera la fin des cinquièmes, mais ça peut passer, quoi.
Non, c'est génial parce que, la partie animation, c'est quelque chose que l'on fait très souvent, hein, animer les choses. Et là, avec un but comme ça, et puis moi, je pense à autre chose. On a accueilli deux petits Syriens dans notre établissement là, et les élèves se questionnent beaucoup. Est-ce que ça ferait pas aussi, je sais pas, voilà, est-ce que ça ferait pas le lien?
Réfléchis quand même. Réfléchis quand même. Si t'as un Syrien effectivement dans ta classe.
C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ou ils viennent d'arriver à l'instant.
Ils étaient en Syrie juste avant, ou ils sont passés par plusieurs.
Ouais. A priori, ouais, une histoire un peu compliquée, mais les élèves sont très très ont beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que ça marcherait pas? J'en sais rien. Après, je te dis ça à chaud comme ça, hein, mais
non, mais c'est à réfléchir. En tout cas, le projet est intéressant parce que là, pour le coup, vraiment, il va pouvoir mettre en transversalité de nombreuses matières, puisque il y a
non, c'est un super truc, voilà.
À ta place, en tout cas, Jeff, si tu veux le lancer avec ta classe et ton élève syrien, j'en parlerai avec lui, avec ses parents.
Oui, bien sûr.
C'est pour savoir
si
ça le met mal à l'aise ou pas, tu vois. Et puis, en fonction de sa réponse, j'ai déjà fait ça, moi. Tu sais, dans des cours, des thématiques qui focalisaient sur une nationalité, etc. Je sais que j'en avais parlé avant, mais c'était bon avec des plus grands, évidemment, quoi.
Non, mais là je dis ça à chaud, mais je sais pas, ça peut être une des réponses, ça peut allier les deux, quoi.
Oui, bien sûr.
Donc voilà. Non, sinon c'est super, super intéressant. En tout cas, un très beau projet de l'UNICEF, hein, tu vois. Ouais.
Bon, ils font plein de trucs, hein. Ils sont assez, assez dynamiques. Je sais pas si ça existe en France, mais il y a le UNICEF Power Band aussi, Kid Power Band, qui est un tracker d'activité pour les enfants. Et à chaque fois que tu accomplis un certain nombre de pas, tu as des points. Et au bout d'un certain nombre de points, tu envoies des paquets de nourriture aux enfants dans les pays atteints de famine. Ouais.
D'accord. Tu me mettras ça dans les notes de l'émission, là.
Paf. Ouais, mais il faudra vérifier avant si c'est disponible en France ou pas. Mais ouais.
Ah, c'est pas bien. UNICEF, tu m'as dit quoi? Power Band.
Kid Power Band.
Kid Power Band, ouais, tout à fait. Désolé, j'ai encore été kické à outre
le serveur.
Ouais.
Super projet. Je vois pas de date butoir.
Moi non plus, j'ai cherché un peu là, mais c'est.
Bon, très bien. En tout cas, vous pouvez trouver ça. Donc, tu m'as dit UNICEF Coding Challenge.
Voilà.
Ok. On a fini pour nos parties sérieuses. Hein, c'est ça.
Ouais.
On passe pour parler d'autre chose. Je crois qu'il n'y avait que toi. Ça fait quand même quelque chose. Je vous ai laissé faire.
Ah, il n'y a que moi. Allez. Bah, écoute, bah, non, j'en fais.
Ouais, vas-y.
Alors, tout d'abord, la série Shameless. La série Shameless, donc Shameless, la série américaine, qui est bon, disponible.
J'espère que c'est bien, parce que j'ai rien à regarder en ce moment. Donc,
Ah bah vas-y, là, t'en as pour 7 saisons, il y en a 6 sur dispo. Ouais, mais elles sont... c'est vraiment génial. C'est une série qui est drôle, mais qui en même temps qui attaque des problématiques sérieuses et qui c'est vraiment très sympa sur une famille à Chicago, donc une famille plutôt de défavorisée dans les ghettos de Chicago. Et on voit l'évolution un petit peu de cette famille. C'est vraiment super drôle et vraiment super bien. À pas regarder avec les enfants, hein. C'est vraiment vraiment excellent. Donc je la recommande. C'est une série de show. C'est le même producteur
Showtime.
Pour Dexter. Showtime, exactement.
Showtime,
et je m'étais acheté l'abonnement Showtime justement pour voir la dernière saison. Et j'ai pas su attendre qu'elle arrive sur Netflix, tu vois. Vraiment super série. Et puis un autre truc aussi, alors là il faut vous dépêcher les amis, le festival de jeux de société, le festival Pluie de jeux, enfin Pluie de jeux, c'est donc un festival de jeux de société. Il y aura du jeu de rôle, il y aura du jeu de plateau, il y aura, c'est un peu de tout, il y en a pour toute la famille. Ce qui est cool, c'est que ça se déroule dans l'abbaye royale du Mont-Cel à Pourpoint. Là aussi c'est mon meilleur ami d'ailleurs qui s'occupe de gérer le lieu de l'abbaye du Mont-Cel, donc c'est un super lieu à visiter. Et donc ça se déroule du 5 au 7 mai, donc il faut se dépêcher un petit peu. Moi je sais que je les avais soutenus sur Ulule, même si évidemment je pourrais pas y aller, mais j'aime bien ces festivals. Bah, tiens, on rejoint un peu les salons et tout ça. Bah, là un salon du jeu vidéo, c'est vraiment bien parce qu'on peut faire des parties et tout, on peut y amener sa famille et tout, donc c'est vraiment cool là, vraiment cool. Et bah, j'espère que ça va bien marcher et qu'il y aura plein d'autres éditions. Donc le festival Pluie de jeux à Pourpoint dans l'abbaye royale du Mont-Cel, un super cadre à faire un jeu de rôle là-dedans, bah, ça me plairait beaucoup.
T'as dit jeu vidéo, mais c'est pas forcément jeu vidéo. Hein,
j'ai pas dit jeu vidéo, non, j'ai dit jeu de société.
Non, il a pas dit jeu vidéo.
T'as dit jeu vidéo, oui, il me semble. Mais bon, c'est pas grave.
Jeu vidéo, non. Jeu de rôle.
D'accord, jeu de société, rôle. C'est ce qui me semblait.
Ouais.
Ok.
Voilà.
Super, super. Je sais plus où j'en suis. Bah, t'as terminé, t'avais quelque chose, toi, Guillaume? Non, c'est bon?
Non, on a le droit de l'autopromo ou pas?
Bien sûr, bien sûr. Seb, il a pas osé faire l'autopromo.
C'était pas de l'autopromo d'e-teacher, c'était de l'autopromo pour, voilà, pour les collègues d'anglais, si ça vous intéresse. J'ai eu la chance de participer fortement à un nouveau manuel d'anglais pour des petits sixièmes qui va débarquer dans vos établissements dans les jours à venir. Voilà, c'est un manuel qui s'appelle I Bet You Can et qui est... très très orienté, bien sûr, nouvelle technologie, enfin pas très orienté, on va dire un manuel normal de 2017 avec de la technologie, mais surtout voilà, il y a un super dessin animé. On parlait de création, voilà, on a pu faire des choses avec des animateurs qui nous ont fait des vrais dessins animés, ce que j'attendais vraiment pour des, et qui
super
est vraiment
musique aussi, hein.
Voilà, bien réussi. Et puis des musiques originales pour apprendre en chantant que j'ai eu la chance de composer et d'écrire, et j'en suis très fier aussi. Donc voilà, collègues du second degré, prof d'anglais de sixième, n'hésitez pas à aller le feuilleter quand vous le recevrez dans vos casiers. Voilà.
Tu nous mettrais un petit lien dans les notes de l'émission aussi. Hein,
voilà, je vous mettrai ça dans les notes de l'émission. Pas de problème. Voilà,
bravo,
voilà.
Bravo.
Merci, cool, merci ça. Beaucoup. Ouais, il est cool et j'en suis assez fier, je dois le dire. Voilà.
Si tu vas mettre les chansons sur la playlist Spotify.
Putain, je vais la mettre. Ouais. Dès qu'elles sont toutes sorties, je la mettrai. Bon, alors après, je tourne 1 minute 10, si tu veux. Donc,
Je les ai entendues, moi. C'était sur quoi? Non, sur SoundCloud, tu les as mis, hein, je crois.
Sur SoundCloud, hein, ouais. Mais elles seront bientôt dispo officiellement. Pas de problème.
D'accord, je les avais écoutées.
Il y a une tournée qui va avec le manuel.
Bien sûr, bien sûr. Je demandais à l'éditeur de payer la tournée et tout. Ça va être cool.
Ouais, j'espère bien.
Et voilà, on fait venir Guillaume dans chaque classe avec sa guitare.
Bon, et ben très bien, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission.
Eh ben, on a fait le tour, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, sur uteachers.fr. Et si on veut nous contacter plus personnellement, Seb, où c'est qu'on peut te contacter?
Vous pouvez me contacter sur Twitter, je pense que c'est là où je répondrai le plus facilement, à @thetrueseb. THETRUE, SEB, SEB. Hein. Voilà.
Guillaume.
Moi, vous pouvez me contacter par Twitter aussi, @WILL, donc WI2L, O, la combinaison est trop, le tiré du 8 _, donc, et teach, TEACH, WILLO TEACH.
Ok. Et ben voilà, moi, c'est @Jeff8342 sur Twitter. Bonne soirée à tous.
Et à très bientôt.
Et merci d'être Seb d'avoir été présent. C'est cool.
Yes. C'est trop cool.
Voilà, ça m'a fait plaisir de revenir.
Salut.
Ciao à tous.